La scène se passe précisément le soir du réveillon 1992-1993. Je venais tout juste de quitter les années collège, pendant lesquelles j'avais acquis la double certitude que Jean-Jacques Goldman était 1. Le meilleur chanteur du monde et que 2. Rien au monde ne me ferait changer d'avis. Constat tout en humilité pour souligner à quel point il peut être difficile de se construire au début de l'adolescence. Mais c'était sans compter sur la playlist de cette fameuse soirée du Nouvel An, savamment concoctée par mes nouveaux copains de lycée de l'époque, et qui allait élargir mes œillères, voire me les ôter et les jeter au feu. Fabien, Florent, Johan, si vous m'écoutez, je ne vous remercierai jamais assez. Il se trouve que dans cette playlist, certainement couchée sur une cassette repiquée d'une autre cassette, cette précision évoquera quelques souvenirs à certains d'entre vous, peut-être même dessinera-t-elle un sourire sur vos lèvres. Sur cette playlist donc figurait le groupe dont il sera question aujourd'hui. Une formation britannique légendaire que j'ai découvert à cette occasion et que j'ai régulièrement écouté en mesurant petit à petit l'importance de leur œuvre. Et puis quoi, 30 ans plus tard, j'estime toujours que Jean-Jacques Goldman est un excellent auteur-compositeur. Comme quoi, en musique, on n'a jamais rien à perdre. C'est donc avec un immense plaisir teinté d'une certaine nostalgie que se déroulera cet épisode en compagnie de mon pote du jour, Ludo. Bonjour monsieur Ludo.
Bonjour Eric.
Alors Ludo, j'ai une première question. Est-ce que tu considères que Jean-Jacques Goldman est un excellent compositeur ?
Ah oui, très bon compositeur, ah. Mais c'est pas l'objet de...
C'est pas du tout l'objet. Ouais, alors Ludo, on est potes depuis une quinzaine d'années à la louche. J'ai pas fait le compte exact pour cet épisode et voilà, je m'en excuse.
À la grosse louche.
15, on est bien. Ouais. Et donc je te laisse tout de suite la main pour nous annoncer quel album tu as choisi de nous présenter.
Ouais, j'ai choisi le Greatest Hits 2 de Queen. Du coup, ça m'a amené beaucoup de bonheur à l'écouter. Jusque de sa sortie jusqu'à maintenant.
D'accord. Alors, on va pas ou peu présenter ce très célèbre groupe de rock hein, que beaucoup de gens connaissent. Ça va pas être un épisode de découverte, mais vraiment axé sur la nostalgie de notre adolescence.
La petite Madeleine de Proust.
Exactement, oui. Alors, juste pour rappeler qu'ils ont enregistré 15 albums entre 1971 et 1991 et que c'est un groupe qu'on peut difficilement catégoriser. Donc, ouais, pour moi, musicalement riche, du coup.
Voilà, un peu de tout.
Ouais, ils ont abordé...
Du bon comme du moins bon, comme tout groupe.
Ouais, ouais.
Vraiment tous les styles, quoi.
Beaucoup de styles différents, ouais, que ça va du cabaret burlesque au rock, hard rock, l'opéra rock, le pop, la pop.
Disco.
Le disco, ouais, ils ont fait... Ouais, et puis c'est de très, très bons compositeurs, on le verra tout au long de cet épisode. Il existe deux grandes compilations incontournables pour ce groupe, le Greatest Hits 1. Alors, je pense que les Anglais ont inventé le mot de Greatest Hits juste pour se foutre de la gueule des Français. Oui. C'est impossible à prononcer. Donc, le 1 qui couvre la première décennie, donc de 71 à 91, et le 2, donc la deuxième décennie. Il y a aussi un 3 qui est sorti après la fin du groupe, mais qui est très, très dispensable, je trouve.
C'est ça, oui. Enfin, Il est pas fou.
Alors j'ai une double question. Pourquoi tu as choisi une compilation plutôt qu'un album quand je t'ai proposé cet épisode? Et pourquoi le 2 plutôt que le 1?
Alors la compilation, c'était parce que je ne savais pas quel album choisir de Queen. Parce que en gros, il y a chaque album a vraiment une bonne. Il y a des bons morceaux, des bonnes musiques, des. Il y a beaucoup de choses à dire sur chaque album, du coup je savais pas lequel choisir, et en fait c'est celui qui m'a amené à découvrir ce groupe, c'est cet album là, le Greatest Hits 2, parce qu'en fait la petite histoire c'est que à Noël justement, la sortie du CD, la sortie des platines CD, et du coup mon père il m'a emmené au champ du coin pour aller chercher la platine et le CD de Queen, et c'est le premier CD que j'ai eu dans ma collection.
D'accord, et t'avais quel âge?
C'était en 91, à la sortie du coup, j'avais 8-9 ans.
Oui, d'accord, 8 ans. Ok, ah ouais. Donc, donc c'est la compilation qui te fait entrer et après t'as l'explorer petit à
c'est
petit
ça, chaque album.
D'accord, ok.
Et du coup au final les albums chacun je les ai découverts au fur et à mesure pour finalement revenir toujours à cet album là qui finalement revient régulièrement dès que j'ai un peu de blues ou j'ai envie de me changer les idées, je reviens à ça. Quoi.
Ouais. Alors c'est marrant, sur cette double compilation, je trouve il y a un phénomène qui arrive parfois en musique, c'est que j'ai l'impression que ces deux compilations sont peut-être plus célèbres que
chaque album
en fait. Ouais. Ça arrive de temps en temps avec Eagles par exemple,
c'est
avec Alors c'est très bien parce que
bah ça permet déjà de découvrir pas mal de styles différents parce que
ouais.
un Great Hostess ça permet de justement de voir un panel de chansons complètement différentes et puis l'évolution du groupe au fur et à mesure des années. Mais c'est aussi une porte d'entrée pour aller découvrir chaque album individuellement.
Oui. Et puis alors, une compilation, c'est pas toujours réussi, je trouve.
Non,
Voilà.
non.
Mais il se trouve que pour ces deux-là, bah, ça
Ouais.
marche au
Mais
poil,
en
en
même temps,
fait.
je pense que 80% du catalogue de Queen peut faire un Greatest Hits. Hein, donc on peut en sortir un troisième, un quatrième, un cinquième avec
Exactement.
d'autres.
Vous avez compris, donc nous avons affaire à un vrai fan. Quand tu penses à Queen, c'est quoi les premières images qui viennent? Parce que c'est un groupe qui est important pour plein de raisons particulières.
Ouais. Bah alors moi, c'est surtout dans l'enfance. Alors d'après mes parents, c'était le seul. Quand je mangeais, etc., c'était le seul truc qui me scotchait. C'est-à-dire qu'ils me mettaient un clip. C'était le début des clips,
Ah
etc.
oui, ouais.
M6 est sorti d'abord pour la musique. Et du coup, ben mon père, très fan de musique, de Led Zepp, à plein d'autres styles, a fait que ben il y avait toujours de la musique à la maison. Et particulièrement, ben, la chanson qui me scotchait tout le temps, c'était I Want to Break Free. Et j'étais mais silencieux et j'écoutais. Et je regardais ben, le clip qui est assez rigolo. Mais du coup, ils étaient étonnés que ça me captive autant.
D'accord, ok, très bien. Ce que je propose, c'est qu'on va dérouler tranquillement l'ensemble des 17 titres de la compilation et on
Ouais.
va s'arrêter sur 7 titres que tu as choisi de mettre
Ouais.
particulièrement en
En
évidence,
avant.
mais on pourra mettre les 17 en
C'est vrai.
avance et faire un épisode de 8 heures. Alors, l'album s'ouvre sur A Kind of Magic.
C'est justement la porte d'entrée de l'album et c'est vraiment une. Enfin, ce morceau-là a eu deux histoires, c'est-à-dire qu'il y a eu la version radio, ce qu'on entend là sur le Greatest Hits, et la version de Highlander,
Oui, puisque
qui.
ça
Bah
fait
c'est
partie de
la
la
c'est
BO
quand
de
j'aime
Musique,
voilà
voilà, c'est ça.
et du coup il y a deux chansons de justement de la BO de Highlander qui sont sur cet album et par contre la version qui est sur l'album d'Highlander est complètement différente
Ouais,
du
c'est
coup quand on
ça.
va les chercher on se dit mais c'est pas du tout ça n'a rien à voir
Ouais,
donc
ouais, ouais.
mais oui c'est un gros hit qu'on entend tout le temps à la radio répété 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 enfin moi j'ai pas grand chose à dire d'autre
Non.
là-dessus.
Alors, je vais juste ajouter un petit truc, c'est que j'ai envie de profiter de cet épisode pour parler de l'ensemble des musiciens de Queen. On parle
Ah oui,
Queen, c'est souvent Freddie
c'est
Mercury
vrai.
qui est très très mis en avant, et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que les trois autres membres sont vraiment des musiciens et des personnes que je trouve assez exceptionnelles. Alors, A Kind of Magic, c'est une chanson de Roger Taylor, le batteur du groupe, qui a eu. Non seulement est un batteur, mais c'est un multi-instrumentiste, un très bon auteur-compositeur, qui a eu une carrière solo un peu discrète, mais pas dégueu non plus. Et puis c'est quelqu'un, bah, comme les autres, on le verra après, qui intellectuellement est assez brillant. Il a fait des études, il a failli être dentiste, il a une licence en biologie. Voilà, c'était des gens un peu particuliers. Voilà. Et je pense que ça mérite d'être mis un petit peu en avant. La deuxième chanson de l'album, c'est Under Pressure. Une chanson que tu as décidé de mettre en avant, et là je dis oui monsieur.
Ben, c'est la collaboration de Queen et de David Bowie.
Alors quand tu entends Under Pressure, qu'est-ce que ça te fait?
Bah, au début, c'était pas celle que j'aimais.
Ouais.
J'arrivais pas à rentrer dedans.
D'accord.
Ouais, il y avait juste l'introduction, je trouvais bien, mais après, le fait que David Bowie intervienne, enfin, ça me gênait d'avoir un autre chanteur dans le groupe.
Ah oui.
Ouais. Et du coup, c'est celle par laquelle je suis arrivé le moins à comprendre jusqu'à, ben voilà, pas très longtemps, mais c'était vraiment celle que je n'appréciais pas du tout sur l'album au départ.
D'accord.
Et au final, c'est celle maintenant que je mets tout le temps parce que j'adore la progressivité de la chanson,
Ouais.
la montée en puissance, enfin voilà, vraiment elle est très bien construite. Et puis surtout, enfin voilà, après j'ai cherché un peu pour voir comment ça se passait autour, comment elle a fait pour être pour naître. Et au final, on se rend compte que des fois, c'est des hasards qui font que il y a des belles chansons qui apparaissent, quoi.
Ouais. J'ai lu que le processus créatif avait été assez pénible
pour le groupe,
pour Bowie. Enfin, ils ont.
C'est-à-dire que déjà le groupe est très. Ils ont leurs habitudes, on va dire. Du coup, amener quelqu'un d'autre qui a déjà, lui, une carrière et qui est déjà une étoile, on va dire.
Puis un ego bien perché.
Démesuré, même. ce qui fait que c'est difficile de joindre les deux. Et au final, ils ont réussi à construire quelque chose qui est étonnant, qui est complètement différent du... Enfin, je pense de tout ce que Queen a fait jusqu'à présent. La construction, la montée en puissance de la chanson. Et derrière, ça fait quand même un truc incroyable. Puis, la rencontre... au départ, ils étaient en train de... ils étaient en train de s'amuser, reprendre des chansons, etc. David Bowie qui apparaît dans le studio pour s'amuser aussi. Puis finalement, il se dit, les gars, on fait une chanson. Enfin... C'est la manière dont c'est fait, je trouve que c'est beau, quoi.
Ouais. Alors dans les témoignages des musiciens de Queen, notamment, ils disent que ça a été très compliqué humainement d'arriver au bout de ça, parce qu'ils s'entendaient vraiment pas. Ils se plaignaient beaucoup de l'attitude de Bowie, qui était assez autoritaire, on va dire. Et alors Roger Taylor, jusqu'au bout, a été très mitigé sur la qualité de l'enregistrement, et David Bowie a dit au mieux ça fera une bonne maquette.
C'est ça.
Et à tel point qu'aucun de ni Bowie ni Queen ne voulait sortir cette chanson en single, voire même, et c'est la maison de disques de Queen qui a tranché. Elle a dit ça sera un single, et puis point barre, quoi.
Et surtout, elle est parue sur un album qui est pas terrible.
Ah oui,
sur celui de Queen, donc c'est Hot Space. C'est vraiment l'album, il voulait faire du l'électro, du disco, etc. Et cette chanson-là, elle apparaît dans un truc qui est complètement différent de l'album. Ça fait vraiment bizarre. Quand on écoute l'album Hot Space, on se dit, mais ça n'a rien à voir avec l'album.
D'accord.
Et du coup, ils ont dit, on va la mettre là.
La pièce rapportée.
Voilà. Parce que peut-être elle marche.
Isolément du reste. Alors, j'encourage tout le monde à aller écouter des reprises de cette chanson qui sont vraiment chouettes. On en trouve beaucoup sur YouTube. Alors notamment toutes les reprises que Bowie a fait avec sa bassiste Gaylan Dorsey. Alors c'est une musicienne, cette femme, elle est incroyable, elle a un charisme, elle chante bien, elle est très très impressionnante. Il y a aussi une version qui m'a été soufflée par notre pote commun Thibaut, qui avait participé à un épisode de Dépoter des albums, et donc il m'a parlé des versions des Foo Fighters. Foo Fighters, le groupe de Dave Grohl, l'ancien batteur de Nirvana. Et ils la reprennent de temps en temps en concert, et c'est le batteur des Foo Fighters, qui s'appelle Tyler Hawking, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Et donc c'est lui qui la chante, et donc Dave Grohl pose sa guitare pour repasser à la batterie en général. Il y a plein de versions, et elles sont vraiment très très bien. Il la chante bien, et donc version un peu plus musclée, avec plus de guitare saturée. Voilà. Il y a plein de versions. Alors j'ai entendu aussi une version par Ben Harper, qui est très dispensable, quoi.
Les reprises,
c'est pas sa façon de chanter qui correspond à cette chanson.
C'est pas le même style.
Mais bon, on en trouve plein. On avance un petit peu. La troisième chanson, Radio Gaga, un immense tube.
Je sais pas trop si. Trop écouté.
Alors, ça, je suis d'accord avec
trop
toi.
Ouais.
Alors, ce qui est marrant, c'est que c'était une chanson encore de Roger Taylor. Il pensait la garder pour lui, pour son deuxième album solo. Et puis, le groupe a entendu les maquettes. Il a dit hey, Coco, tu vas nous la donner bien gentiment. Et puis, finalement, ça finit sur un album de Queen. Alors, moi, Radio Gaga, je sais pas si ça te fait cet effet-là. Moi, j'ai toujours eu un gros malaise en voyant des images de live de cette chanson.
Ah bon?
Parce que quand t'arrives vers le refrain, ils chantent All we hear is Radio Gaga. Et ils tapent des mains comme ça. Et on voit des dizaines de milliers de personnes battre dans les mains. Et alors, moi, ça me fait toujours penser à cette facilité qu'on peut avoir à manipuler les foules.
Une secte.
Et, au secte, je pense au discours des politiques des régimes totalitaires.
Mais.
Alors là, c'est de la musique, c'est de la...
Oui, mais il faut savoir que Queen, à la base, il voulait impliquer le public, parce qu'en fait, au fur et à mesure des concerts qu'il produisait, il se rendait compte que les gens chantaient avec eux.
Oui.
Et du coup, ils ont produit énormément de chansons pour que le public s'implique.
Ouais, le tube de stade, quoi.
Voilà, le tube de stade, Rock You, enfin, il y en a plein comme ça. Et du coup, Radio Gaga en fait partie. Je pense que c'est aussi à des fins...
Ouais, bien sûr, c'est une belle communion comme ça. Mais...
Le gimmick des bras en l'air, c'était fait exprès, je pense.
C'est beau, mais moi ça met toujours un fond de malaise avec ça, c'est marrant.
Moi ça me fait
c'est joli.
Fait chaud au cœur de voir d'un seul coup toute la foule qui se lève et qui Ah ouais. Tape des bras.
Alors, tu as mentionné les autres albums de Queen que tu connais bien. Est-ce, lesquels tu préfères en particulier, voilà, si quelqu'un voulait découvrir le groupe, tu lui dirais de commencer par quoi?
Bah, moi, j'ai commencé par The Works, avec, ouais. Où il y a justement Radio Gaga.
Et donc, c'est plutôt récent, plutôt là.
Bah, c'est années 80.
Ouais,
début okay. 80.
Okay.
Après, bah, globalement, il y a au tout début de l'apparition de Queen, il y a Days at the Races et son pendant où il y a Bohemian Rhapsody, je sais plus, A Night at the Opera. Mm. Ça, voilà, c'est des indispensables à écouter. Voilà, c'est la base.
D'accord.
Voilà. Okay. Mais après, si on veut être plus mainstream avec Kind of Magic, il y en a des biens aussi.
Ouais.
Enfin, je dirais qu'il y a dans chaque album, il y a à prendre vraiment des chansons et même des chansons étonnantes au niveau construction, au niveau refrain. Enfin voilà, c'est pas tout le temps couplet refrain.
Oui, on y reviendra pour voilà. pour d'autres titres après. Ouais. Ça c'est quelque chose qui est très identifiable.
Mais voilà, ces trois albums-là, pour moi, c'est des piliers.
Ok, très bien. La chanson suivante, I Want It All. Alors c'est rigolo cette chanson parce que j'ai lu, c'est une chanson de Brian May, le guitariste, et dans le refrain il dit I want it all and I want it now, je veux tout et tout de suite, et il racontait que c'était ce que disait sa femme quand elle piquait une colère à la maison, et je trouve ça marrant cette autodérision, du coup il en a fait une chanson.
Bah du coup sur ce morceau-là, faut savoir que quand on écoute donc la version Greatest Hits, ça commence par justement les quatre qui chantent à Grand Titol, et sachant que non, ils chantent pas à quatre, ils chantent à trois.
Ouais.
Et quand on écoute l'album, donc c'est sur The Miracle, je crois, l'intro, c'est de la guitare.
Ah d'accord, c'est pas voilà. La même version. Moi non, j'ai toujours connu la version de la compil.
En fait, il y a beaucoup de, quand on écoute les Greatest Hits, il y a beaucoup de versions qui sont différentes sur les albums.
D'accord.
Voilà.
Ah oui.
Donc là, ça commence avec la grosse guitare qui emmène le morceau.
Ouais, donc là, on est plus sur une version un peu typée, plus rock, hard rock.
Voilà.
Souvent, les compositions de Brian May, je trouve, étaient un peu plus typées.
Ouais. Bah,
un peu
si, typé il met ça. En avant son instrument aussi.
Ouais. On va parler justement de Brian May, je profite de l'occasion. Alors, pour moi, c'est un personnage incroyable, et pas seulement pour sa coiffure.
Mm-hmm.
Il vient d'une grande famille intellectuelle, il a fait du piano très tôt, il a un diplôme de conservateur de piano, ses premières guitares à 7 ans. Alors, j'ai lu qu'il a... C'était une guitare acoustique qu'il a déjà commencé à modifier lui-même. Il a bricolé le manche, il a mis des micros.
Ouais.
Et à 16 ans, avec son père, il fabrique sa propre guitare, qu'il appelle la Red Special.
Voilà.
Et c'est la guitare qu'il utilisera toute sa carrière.
C'est ça.
Donc ça, c'est
incroyable.
Assez incroyable. Mais c'est pas fini. Ce jeune homme était brillant à l'école. Il a fait des études d'astronomie, d'astrophysique. Et alors j'ai lu qu'il a soutenu sa thèse en 2007, qu'il avait arrêté 30 ans plus tôt... quand sa carrière musicale a commencé. Et une thèse reconnue, quoi. C'est pas une thèse de pacotille. Donc c'est assez étonnant, je trouve, ce genre de personnes.
Grosso modo, ces quatre-là, c'est des gens qui sont... Enfin voilà, ils sont pas issus de milieux très pauvres, ils ont quand même de quoi apprendre, et leurs études étaient déjà préparées, à part Freddie Mercury qui lui était plus dans la mode, enfin plutôt le côté artistique.
Ouais.
Les autres, c'était vraiment comme tu as dit l'astrophysique, dentiste, enfin études de dentiste ou de biologie, puis après tu verras John Deacon, c'est aussi électronique.
Ah, c'est des têtes,
c'est des têtes.
C'est intéressant. Alors moi, I Want It All, c'était... En écoutant la compil, j'essaie de me souvenir dans quel état d'esprit j'étais à l'époque.
Ouais.
Alors moi, je sortais d'une période de musique où j'étais le gentil petit garçon, chanson française. Toi, je parlais de Goldman, Cabrel, tout ça. C'est... Et Queen, c'était un peu des sons nouveaux pour moi. Enfin, les guitares
d'accord.
saturées, j'avais vraiment pas l'habitude.
C'est vrai.
Ouais, j'avais 15 ans, pourtant, j'étais pas du tout un rebelle. Et, et entendre ça... Je me dis, ah ouais, ils sont comme ça, c'est peut-être pas mal, quoi. c'est, quelque part, je me dis, c'est peut-être grâce à Queen que j'ai aimé Metallica, Iron Maiden.
Ça t'a mis le pied à l'étrier pour
d'autres. Ouais, c'est marrant. Et c'est souvent la rencontre avec les copains de lycée qui amène à ces changements-là. Toi, comment s'est construite ta culture musicale? Donc, tu parlais de ton père qui écoutait beaucoup de musique à la maison. C'était une grosse influence.
Ouais, de toute façon, c'est à la maison que j'écoutais le plus de musique. Et mon père qui avait... qui avait voilà des tout le temps la radio était allumée, on enregistrait avec la cassette des passages où on voulait la musique ou la chanson qu'on recherchait depuis longtemps parce qu'on n'avait pas le CD ou voilà, il y avait tout le temps de la musique à la maison. Et puis mon père aussi avait une collection de vinyle, t'as vu, avec du Neil Young, du...
Ouais. Alors je remercie monsieur Kravdik, le papa de Ludo, qui m'avait donné une partie de sa collection vinyle il y a quelques années. J'en étais très content, c'était très gentil, merci monsieur.
il t'entendra.
Ouais.
Et franchement, enfin voilà, il avait aussi un autre copain à lui qui a une, enfin voilà, une, c'est une bibliothèque, mais c'est une discothèque pleine de vinyles. Et chez qui j'allais tout le temps, et je prenais un, je mettais pour écouter, pour voir ce que c'était, parce que c'était des mots, des noms inconnus, du Supertramp, du, enfin voilà, quand t'es dans les années 90, Supertramp, c'était pas trop ce qui était à la mode.
Ah, c'était fini.
Voilà. Et du coup, tu redécouvres des groupes comme ça, c'est agréable, quoi.
Ouais, assez chouette. À un moment, t'étais abonné à des magazines musicaux, ça t'a...
J'avais un abonnement à Rolling Stone, donc quand j'étais fin lycée, début prépa, où c'était agréable d'avoir toujours un petit CD en bonus pour écouter les nouveautés, quoi. Et chaque nouveauté faisait que j'écoutais soit l'album qui à la Fnac, enfin tu vois, t'avais toujours accès aux albums, aux nouveaux albums, du coup t'allais voir, tu cherchais, enfin j'étais toujours en recherche de nouvelles musiques pour au final tout le temps revenir cet album là
sur les fondamentaux.
Oui, voilà, les fondamentaux finalement.
Ouais. Et maintenant tu utilises t'es abonné à une plateforme de streaming?
Ça et là, des fois tu me donnes des nouveaux groupes à écouter, ou c'est souvent des copains qui me disent tiens, t'as écouté.
D'accord, mais t'es pas en recherche active de nouveautés en ce moment?
Moi je suis plus maintenant classique rock.
Ça marche. La chanson suivante, I Want to Break Free. Donc là, tu en parlais au début. Donc là, pour toi, c'est une chanson incroyable.
Oui.
On va se la remettre dans les oreilles et tu nous expliques après. To Break Free, c'est une chanson que tu disais quand tu étais petit, tu l'adorais, alors qu'elle est presque aussi connue que Radio Gaga, mais pour toi, tu t'en es pas lassé de celle-là. Qu'est-ce que ça te fait?
Toujours des frissons dans le dos. Après, quand je la vois en concert, les différents concerts qu'il y a eu de Queen, c'est incroyable.
Ouais.
La construction de la chanson, cette montée de synthé, après la coupure, il chante. Enfin, je trouve qu'elle est bien fichue.
Elle est bien fichue, oui. Alors qu'elle est toute simple, parce que harmoniquement, c'est un blues, en fait.
D'accord.
C'est marrant, c'est les serres d'accords. Queen, ils ont souvent des compositions assez élaborées, des progressions très lentes, d'accords, des changements. Et puis, alors, celle-là, elle est... couplet-refrain, c'est un blues, en fait. C'est marrant. C'est une chanson de John Deacon. Le troisième larron dont je voulais un petit peu parler. Donc, c'est le dernier intégré au groupe. C'est le plus jeune du groupe aussi. Alors j'ai lu un truc marrant, il est venu à la basse parce que dans son premier groupe qui s'appelait The Opposition, ils avaient recruté un bassiste et ils le trouvaient tellement nul qu'il l'a viré et lui s'est mis à la basse.
D'accord.
Voilà, il est venu à la basse comme ça, c'est un guitariste à la base. Et alors comme les autres, c'est quelqu'un qui a fait des études, alors lui c'est dans le domaine de l'électronique. Et alors c'est marrant parce qu'il a continué ses études jusqu'en 74, soit 3 ans après le début de Queen. Okay. Pendant les 3 premières années de Queen, il a continué ses études pour avoir son diplôme. Je sais pas comment il faisait, c'était... Ouais.
Alors ça se faisait.
Ça se faisait, ouais. Les gens avaient le temps à l'époque.
C'est ça.
Ouais. Et c'est le seul qui chantait pas. Il avait un espèce de petit complexe d'infériorité par rapport aux autres.
Il y a l'harmonie aussi des voix. Je pense que s'il se rajoutait en plus, ça allait peut-être pas dans quand vous écoutez les bandes. Du coup, peut-être il s'est mis en retrait tout simplement parce que les trois, Mercury étaient là. Ils sont déjà forts en chant.
Ouais, carrément. On dit un mot du clip.
Oui.
C'est rigolo.
Il est rigolo, voilà. Ouais. Tous habillés en, en femme, ouais. En train de passer le ménage, repasser, etc. Et puis c'est un petit kiff, voilà, il voulait un peu choquer aussi.
C'était, ouais, c'était marrant.
C'était
ouais.
Un peu l'époque, quoi.
Freddie Mercury en robe et en moustache.
Voilà.
Là,
c'est, ouais. C'est original.
Alors c'est à tel point qu'à l'époque, MTV ouais. ne voulait pas le passer, parce qu'à cause du fait qu'il y avait des hommes
c'est puritain,
habillés en femme.
C'est puritain ouais. d'américain, hein, c'est normal.
Ouais. Maintenant, on arrive
le gros
au monument Innuendo.
Voilà.
Voilà, j'en dis pas plus, je passe un extrait. Alors, Innuendo, pour toi comme pour moi, je pense que c'est un monument.
Oui, oui.
Alors, qu'est-ce qui est...
Bah, c'est le Bohemian Rhapsody des années 90.
Exactement, oui. Ouais.
Enfin, je ne sais pas s'ils ont essayé de faire la même chose, mais en tout cas, pour moi, ils y sont arrivés, parce que c'est vraiment une construction aussi alambiquée, avec des passages étonnants, des passages calmes, passages avec la guitare espagnole, passages... Ils ont fait du hard rock, enfin, c'est vraiment très éclectique. Comme
ouais, on passe par un gros éventail ouais. de styles qui s'enchaînent vraiment naturellement,
c'est
presque.
Ouais, ouais. On n'a pas ouais. l'impression que c'est hachuré, c'est vraiment uniforme dans la construction et pourtant
ouais.
c'est fait de plein ouais. de périodes.
C'est vrai que tu la rapproches de Bohemian Rhapsody, donc en ce sens que ça dure à peu près le même temps, c'est une chanson qui fait plus de 6 minutes, 6 minutes 30,
ouais, voilà.
Voilà, avec une construction plus symphonique que rock, hein, mm. avec, voilà, comme tu dis, plein de passages. On le disait en l'écoutant tout à l'heure, le début notamment est très très sombre, hein, ce que tu disais, c'est peut-être le plus sombre de ce Café Queen.
Ah, oui.
Moi, ça me fait penser à du Black Sabbath qui aurait été bon, un peu plus produit, avec
oui.
un peu plus, voilà, moins brut, on va dire.
C'est ça.
Et alors, ce qui est marrant, c'est que le premier couplet-refrain, entre guillemets, dans la même veine instrumentale, avec un couplet très sombre, et puis le refrain qui est d'un seul coup lumineux, avec des accords qui viennent majeurs comme ça, c'est vraiment très, très très chouette. Pour la petite histoire, le solo de guitare espagnol n'est pas joué par Brian May, mm. voilà, c'était un ami à eux, qui s'appelle Steve Howe, le guitariste du groupe Yes, qui faisait une petite pause là, pendant son enregistrement d'album et qui est parti voir ses potes. Et puis Brian May lui a dit bah, tiens, tu veux pas faire un solo de guitare espagnol?
C'est ça.
Voilà.
C'est étonnant.
En toute détente.
Voilà, hein, voilà, petite c'est... collaboration.
Ouais.
Pour moi, c'est étonnant quand même, c'est que dans un Greatest Hits, des morceaux de plus de 6 minutes. Pour moi, il n'y en a pas. Enfin, voilà, c'est surtout souvent ce qu'on entend à la radio, etc. Mmh. Et bah, la plupart du temps, c'est 3, 4, 5 minutes grand max.
Ouais, c'est formaté radio.
Voilà,
ouais.
c'est formaté
ouais.
radio. Et quand on prend bah, ce morceau-là qui dure plus de 6 minutes, le morceau précédent, c'était I Want to Break Free, qui a été, parce qu'on ne l'a pas dit, mais au final, la version qu'il y a sur le Greatest Hits, c'est toujours pas la version qu'il y a sur l'album.
Ah,
la version
oui,
qu'il y a sur d'accord. l'album, il n'y a pas l'envolée de synthé, il y a un gap qui n'y est pas. Enfin, du coup, elle est produite différemment. Et on se rend compte que bah, sur un Greatest Hits, bah, ils se font plaisir, ils mettent des suppléments, mmh. Des trucs différents.
Ah, oui.
Pour,
ah, oui.
Bah, je pense pour attirer ceux qui ont les fans. Et
ouais.
puis ceux qui découvrent, quoi.
Puis d'un point de vue créatif, c'est chouette pour eux, parce qu'ils
se retrouvent
pas sur leur laurier. Voilà. Peut-être qu'à l'époque, quand ils ont enregistré ces chansons, ils avaient des idées qu'ils ont dû mettre de côté. Et puis ils se disent, bah là, on va les développer, en faire autre chose.
On peut les mettre en avant.
Ouais, ouais, c'est très riche. Ouais. Le clip de Innuendo est assez original aussi. Mmh.
Pâte à modeler.
Ouais, notamment ça, mais ils ont mis plein de types d'images différentes, et qui n'a pas tellement vieilli, d'ailleurs, je trouve.
Non.
Il est vraiment joli, ouais. Alors moi, Innuendo, à l'époque... C'était la chanson que j'aimais le moins sur cette compile, c'est marrant. Je ouais. la zappais hein, systématiquement, je l'écoutais jamais.
Pareil,
toi
moi
aussi. Ouais.
Bah après Under Pressure, c'était celle-là. Si je pouvais la zapper, je la mettais
ouais,
de
ouais.
côté parce que, enfin, je la trouve. J'étais pas dedans.
Ouais.
T'arrives pas à attraper parce que bon, bah, voilà, quand t'es jeune, bah t'as envie d'avoir des refrains. Tu te dis mais quand est-ce qu'il dit Innuendo tout le temps Voilà, c'est comme I Want It All. I Want It All, je pense qu'ils doivent le dire. Ils doivent le dire 100 fois dans la chanson. Là,
ouais.
là dans Innuendo, ils le disent peut-être 2-3
ouais.
fois.
Ouais.
Pour final, te dire, ben voilà, c'est peut-être aller gratter et bah, ça t'attire après bah, quand, ouais. Voilà, quand tu prends de l'âge, c'est comme le bon vin, hein.
Ouais, exactement, ouais, ouais. Et c'est vrai que maintenant bah, je me suis surpris à vraiment enfin c'est pas forcément ma chanson préférée de la compile, quoique elle est vraiment, je la trouve assez incroyable.
Moi je pense dans le top 5, quoi.
Ouais, carrément, ouais. Alors est-ce que du coup avec le temps il y a d'autres chansons comme ça qui ont évolué, que t'aimais pas à l'époque et puis que maintenant que ça t'a révélé le fait de les entendre 30 ans après?
Oui, sur cet album là, oui, oui. Bah, y a les deux déjà, Under Pressure, ouais. Innuendo, oui. Et surtout bah, Invisible Man, on en reparlera après.
Ah oui, oui. Ouais.
Celle-là, je me disais, mais c'est quoi, ils ont fait complètement différent de ce qu'ils font d'habitude, du coup, oui. J'étais pas dedans. Puis là, bah, récemment, je réécoute, et au final, bah, elle me plaît de plus en plus à d'accord. l'oreille. Enfin, on en discutera après.
Et à contrario, il y en a qui t'ont lassé au final.
Oui, la suivante, ouais. It's a Hard Life, ouais. je peux plus l'entendre.
Ouais, It's a Hard Life, ouais, c'est vrai. Alors, c'est... Ouais, c'est vrai, moi c'est pas non plus une de mes préférées. Alors il y a un truc qui est rigolo, c'est l'intro, je trouve que c'est l'intro qui est très jolie comme ça, qui est une espèce de d'élan complètement désespéré de Freddie Mercury. Mmh. Alors c'est pas une composition de lui, c'est un extrait d'un opéra qu'il a repris.
Bon
ouais, c'est
d'accord,
ouais. Alors, un opéra de Ruggiero Leoncavallo. Je ne connais pas du tout ce compositeur, j'ai pas pris le temps de chercher à quelle époque il a travaillé. Voilà, puis après bon, c'est une grande balade lumineuse à la Queen, mais c'est vrai qu'elle est un peu plus, je trouve qu'on s'en lasse un petit peu plus.
C'est ça.
Ouais, ouais. La suivante, Breakthrough. Bah, c'était quelque chose à dire. Moi, je pour pareil, c'était pas dans mes préférés.
Jusqu'à présent, j'avais pas grand-chose à dire, mais en fait, en écoutant, je sais pas si t'as vu, mais il y a une reprise de The Miracle qui est sortie avec tout un set de goodies, etc. Et en fait, tu te rends compte que Breakthrough, c'est la combinaison de deux chansons. L'introduction, elle n'était pas faite pour aller avec.
D'accord, ok.
Ouais, tu sais, okay. Au piano, là.
Ouais, ouais.
Là, c'était pas du tout fait pour aller avec.
D'accord.
Et jusqu'au moment où ils ont décidé de faire l'intro de Breakthrough là-dessus.
D'accord, ah, intéressant.
Et ouais. Breakthrough, à la base, c'était plus. C'est Roger Ternet qui l'avait sorti, et c'était plus un rock. Et là, elle est plus électro sur l'album, quoi.
Ouais,
il y a
ouais.
un peu plus de. Bon, ouais. Voilà, c'était juste.
Ouais.
Cette petite parenthèse.
D'accord. Oui, il y a quand même toujours le refrain qui est très pop, là, qui est
oui.
très pop, qui est très efficace comme ça, mais après le reste, bon voilà. Alors, Queen, ils ont travaillé avec énormément de styles musicaux différents. Il y en a dans lesquels tu les trouves particulièrement bons, ou d'autres, tu les trouves un peu moins dedans, ou
bon,
tu
ne
fais pas trop gaffe à ça et tu prends l'ensemble en fait, de ce mélange.
Bah, le style, tu vois, là, avec les opéras, etc., c'est pas qu'ils excellent, c'est juste qu'ils ont une facilité à trouver des manières de composer originales,
ouais.
Puis mettre un peu d'opéra dans les chansons, je trouve
ouais.
ça original.
Bah, culturellement, Freddie Mercury a adoré l'opéra, donc il avait ça dans l'oreille.
Orienté, voilà. Ouais. Mais le mettre dans un groupe de rock, tu te dis, ça va être difficile pour les autres de se mettre dedans. Puis finalement, ça marche. Enfin, il n'y a pas que Bohemian Rhapsody ni Innuendo, il y en a plein d'autres qui sont notables. Après, l'électro, je pense qu'ils ont essayé, ils ont pas réussi, tu vois, ils ont fait de la disco, c'était pas ça. Finalement, ils ont réussi à s'adapter parce qu'à la base, ils voulaient pas du tout de synthé dans leur composition.
Oui. Hein.
Tu sais, quand le synthé a apparu, c'était un refus total des quatre pour dire non, on veut pas de synthé, jusqu'au moment où ils ont décidé, avec Hot Space, d'en mettre. Puis finalement, c'était un flop total parce qu'il y a personne qui a adhéré. Et ils ont réussi à trouver la manière de mettre des petites touches de synthé, des petites touches, ce qui fait que
moins en avant,
moins en avant,
mais du coup qui fait un petit
qui porte un peu plus le groupe en fait,
okay.
pas qui s'impose. Et au final, ils ont réussi à le mettre, tu vois, dans I Want to Break Free, dans plein de morceaux après post années 80, quoi.
Ouais, d'accord. Et du coup, ça a moins vieilli que si le synthé était hyper en avant.
C'est ça.
Voilà.
Ouais.
Ok.
T'écoutes le Hot Space, il est hors catégorie.
Ouais. D'accord. Bon, maintenant, séquence émotion.
Touch my tears. We
Who Wants to Live Forever, un deuxième extrait de la BO du film Highlander, une chanson qui a été composée par Brian May.
Ouais.
Lent, symphonique, profond, le cœur à tomber.
Bah, en fait, déjà pour parler d'Highlander, si tu écoutes la chanson qui est dans le film, c'est pas Brian May qui chante. Parce qu'au début, la chanson sur l'album, c'est Brian May qui commence, en plus c'est Freddie Mercury. Après réapparaît Brian May. En fait,
sur l'album ?
Sur l'album là, de Greatest Hits.
Ah d'accord.
T'as du au tout début, c'est Brian May.
Toi, j'ai jamais fait gaffe à
c'est
ça.
C'est vrai ?
Ouais.
Bah oui, c'est Brian May. Du coup, ça m'avait choqué quand j'avais écouté. Ça m'avait étonné. Et après, en voyant le film, parce que bon, je voulais. Par culture cinématographique, je voulais le voir, et bah, tu te rends compte que c'est Freddie Mercury qui chante tout.
D'accord.
Du coup, je sais pas si c'est à cause de droits qu'il voulait Brian May apparaître sur le CD final, ou parce que c'est lui qui a fait la chanson, etc.
Oui, c'est assez étonnant. J'avais jamais fait gaffe que c'était Brian May qui chantait au début. Ah bah écoute, merci. Je réécouterai ça d'une oreille attentive.
Ouais. Et du coup, et cette montée en puissance avec l'apparition délicate de la batterie au début.
Ouais.
Puis après, quand ça part avec le solo de guitare, oui, c'est un petit morceau.
Ouais. Highlander,
sympa.
T'en as eu...
Oh non.
Dispensable.
Dispensable. Ouais. Très mal vieilli.
Oui. C'est,
Mais oui, dispensable.
D'accord, ok. La chanson suivante, Headlong. Mm. Bah encore du Brian May, hein, du bon riff. Queen a eu une grosse influence sur beaucoup de musiciens après leur carrière. Alors je pense à deux groupes, un groupe, Mika et Muse. Mika je connais moins, Muse c'est très audible sur notamment tout ce qu'il y a de plus récent.
C'est ça.
Ouais. Tu l'entends dans d'autres groupes des fois ou
Surtout au niveau guitare, des fois t'entends des fois la manière de faire de certains guitaristes qui se rapprochent un peu de ce que Brian May faisait à l'époque, mais non, à part Muse, pour moi c'est flagrant qu'ils veulent faire pareil. Après ils sont pas la même, je pense. Enfin, pour moi j'accroche pas du tout.
Ouais.
Mais
c'est vraiment. Je trouve chez Muse c'est trop copié-collé.
Ouais.
Quoi,
ouais. Au début c'était bien parce que c'était pas influencé. Là j'ai l'impression qu'ils ont réécouté tous les albums de Queen, ils veulent faire pareil quoi.
Mais c'est étonnant dans les chœurs, même dans le jeu de guitare.
C'est trop.
Ouais. Alors Mika, je connais beaucoup moins, hein, mais le peu que j'en ai entendu, parce qu'il y fait référence de manière très claire, mais c'est plutôt bien.
C'est dans sa manière de chanter, dans sa manière de peut-être composer, parce que surtout le premier album où il était un peu. Enfin, il a sorti des chansons un peu différentes de ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Grace Kelly, de Mika, c'était complètement différent de ce qu'on entendait d'habitude à la radio, et qui se rapprochait justement de la voix de Freddie Mercury. Mais après, oui, c'est une influence, mais tu l'entends. Enfin, pour moi, je l'entends pas.
Ouais, les plus fines
que
ça,
oui, voilà.
Ouais.
C'est une inspiration, on va dire.
Ok. Chanson suivante, The Miracle. Moi, j'adore l'intro, les pizzicato, et puis qu'on retrouve dans tous les arrangements comme ça. On l'a pas trop dans d'autres chansons de Queen. Mais... Every drop of rain that falls, in Sahara
Desert, says it all, it's a miracle. Et puis moi j'aime bien aussi, c'est la fin.
Ouais.
Le fait que la chanson elle change complètement, elle part dans un. Je sais pas, j'ai l'impression un heavy metal où il commence à sortir la guitare, je sais pas d'où. Ouais. Puis après ça revient en chanson guirette, tout le monde chante ensemble.
Voilà,
Enfin, voilà.
C'est vrai qu'elle est drôlement composée, on a l'impression que c'est des petits bouts de mélodie, t'as l'impression que ça va se finir, hop, ça repart sur autre chose, ça repart sur autre chose, jusqu'au moment où il est complètement déconstruit, comme tu dis, et puis arriver un truc. Carré,
par bras dessous en train de chanter quoi.
Ouais.
Original quoi.
Ouais, carrément, ouais. Il y a eu en 2018 un biopic sur Queen, Bohemian Rhapsody. Ouais. Je pense que tu es allé le voir.
Bah, oui.
Tu as aimé ?
Évidemment. Oui. Bah, j'ai bien aimé le fait qu'on reprenne les chansons déjà de Queen, puis de les voir dans. Voir l'histoire un peu du groupe, c'était bien.
Ouais, t'as eu quelques regrets par rapport à...
Bon, quand
t'es parce que tu devais connaître un peu le groupe, déjà, par rapport à ce que tu connaissais.
Non, franchement, pour moi, c'est un film qui est notable et à voir. Quoi.
Ouais, carrément. Je le trouvais un peu trop centré sur Freddie Mercury, c'était mon regret, quoi.
Je pense que c'est fait exprès. Pour mettre en avant le groupe.
Oui.
Freddie Mercury, c'est quand même le pilier du groupe dans la manière. Il a chanté toutes les chansons, il était indispensable au groupe. Sans lui, le groupe n'aurait pas, serait pas sorti. Hein.
Ouais.
parce qu'avant ils existaient sans lui, hein. Ils ont fait les The Smile, ils ont fait mais ils étaient pas grand chose, alors quand il est apparu c'était la pièce manquante du puzzle,
quoi. Oui, oui,
le... donc quand le puzzle il est pas complet, Queen n'existe plus, quoi.
Tout à fait, tout à fait. La chanson suivante, I'm Going Slightly Mad, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que c'est celle que j'aime le moins.
Et oui, toi, ouais. Bah pareil, ouais. Je trouve, j'arrive pas, enfin je rentre dedans, mais c'est pas exceptionnel, c'est sur l'album Innuendo, je crois, et bon, sans plus.
Ok, en revanche, la suivante, The Invisible Man,
ouais.
Alors on passe un extrait tout de suite, et puis on en parle, parce que c'est une chanson intéressante, c'est une chanson que tu n'aimais pas au début, ouais. Et que finalement tu aimes bien. Incredible how you can see right through me. Invisible Man, alors moi c'est une chanson que j'aime toujours pas, donc je te donne la parole pour essayer de me convaincre, tu as précisément 3 minutes.
Bah, le temps de la chanson, on va dire.
Le temps de la chanson.
Non, mais enfin, moi non plus, j'étais pas très fan, enfin je l'écoutais sans plus, elle est passée derrière quand je faisais des choses à la maison, ou, mais sans grand intérêt, jusqu'à, voilà, 5-6 ans, où j'ai commencé vraiment à me dire, tiens, elle est originale, il y a des choses qui, genre l'introduction, l'apparition de mes synthés qui sont plus présents, je trouve, enfin tu vois, le répétitif de la batterie, qui est, on sent que c'est électronique, enfin voilà, il y a plein de petits gimmicks, et puis le clip qui est marrant, une sorte de forme de jeu vidéo, ouais, c'était le package de la chanson qui me plaisait. Et puis là, récemment, j'ai découvert qu'il disait les noms des quatre membres du groupe dans la chanson.
Ouais, c'est ce que tu m'as fait découvrir, ouais. Quand on écoutait. Ouais, il gueule Freddie Mercury, voilà. John Deacon.
C'est ça. Ouais. Et du coup, on se dit, bah, ils se font plaisir, ils s'amusent. Ouais, enfin, voilà, c'est un groupe qui se prend pas forcément au sérieux. Un peu. Enfin, je pense que c'est leur manière d'être aussi.
Ouais.
Du coup, voilà, je me suis dit, bah voilà, il faut la mettre en avant quand même un peu, parce que... Et puis, il y a un beau solo de guitare que je trouve bien placé. Enfin, j'étais vraiment étonné de la chanson en la réécoutant profondément.
D'accord, ok. Voilà. Et alors, j'imagine que tu n'as pas vu Queen du vivant de Freddie Mercury en concert.
Non. Hein.
Est-ce que tu as vu la formation donc Queen plus Paul Rodgers? Donc, Paul Rodgers, qui était un chanteur qui avait tourné un moment avec les membres restants.
Bah, je l'ai vu comme sur YouTube, quoi.
D'accord, tu ne les as pas vus en live. Non. Et est-ce que tu as vu un cover band,
non,
peut-être de Queen?
Non,
d'accord,
non.
Ok.
Non, j'ai surtout YouTube qui me permet de,
ouais, ouais,
d'accéder à tout ça.
Et d'une manière générale, tu vas souvent écouter des concerts?
Non.
Pas tant que ça?
Non.
Non, d'accord.
Non, le dernier concert que j'ai vu, c'était un cover band de Eagles pendant les vacances.
D'accord.
Mais sans, voilà, c'était,
d'accord,
parce qu'on voulait passer la soirée.
Ouais. Par contre, pas... YouTube,
oui,
c'est une bonne source de live.
Oui, puis surtout, les lives de Queen, je me suis plongé dedans quand j'ai découvert les Greatest Hits. Et puis, je me suis dit, tiens, ils font aussi des lives avec le Wembley.
Oui, oui, oui.
Je pense que c'est le plus connu.
Ouais.
Et pour finalement tomber récemment sur un concert qu'ils ont fait en Hongrie, je crois. Ça s'appelle Hungarian Rhapsody, un truc comme ça. Et en fait, il est 100 fois mieux que Wembley.
Ah ouais?
Parce que Freddie Mercury à Wembley, il a la voix un peu cassée, il est un peu... Alors que là, c'était un des premiers concerts du tour de Magic Tour, pareil que Wembley. Et quand on écoute, y a la vidéo sur YouTube, le concert complet, on se dit, mais en fait, ils ont tout.
Ils ont
toutes les chansons parfaites. Mmh. Freddie Mercury qui est en pleine forme, il a la voix... Enfin, tu sens que pour moi c'est le meilleur concert qu'il
d'accord
a fait récemment.
Donc en Hongrie, hein, tu as dit.
Ouais, en Hongrie.
D'accord.
Je crois que c'est Hungarian Rhapsody, quelque chose comme ça.
Je tâcherai de trouver le lien, je le mettrai en sous-texte de l'épisode pour qu'on aille tous le voir. La chanson suivante, donc pareil, c'est une chanson que tu as souhaité mettre un petit peu en avant, Hammer to Fall. Ready? Hammer to Fall, une chanson de Brian May, donc un vrai, la vraie chanson de guitariste, hein, guitare, du bon gros riff, comme ça. Alors tu disais, la version, une fois de plus, la version sur la compile est différente de l'album.
Bah là, elle a été courtée pour, je pense, les raisons du CD, parce que c'est 75 minutes, si je me souviens bien, et du coup, faut bien faire rentrer tout ça dans un CD, donc ils ont fait des choix. Mais je voulais mettre en avant surtout Hammer to Fall pour le côté rock. Pour moi, c'est la dernière chanson rock de Queen où ils se font plaisir. Ouais. Puis ça se voit dans le concert qu'on voit justement dans Bohemian Rhapsody, dans le Live Aid, où tu te rends compte que voilà, ils sont revenus à ce qu'ils étaient avant. Ouais. C'est le phénix qui sort de... qui ressort de ses cendres.
Ouais. Alors, c'est une chanson sur le thème de la guerre froide. Les paroles traitent de la guerre froide. Est-ce que tu prêtes attention aux paroles?
Alors,
en général, les chansons anglaises ou...
Chansons anglaises, oui. Queen, la plupart du temps, non.
D'accord.
Parce que, je sais pas, mais j'ai pas l'impression qu'elles... Enfin, si, elles veulent dire quelque chose, mais c'est souvent... c'est pas ce qu'ils mettent en avant. J'ai pas l'impression qu'ils mettent en avant les paroles. Ils mettent en avant la construction, la musique, le chant.
Oui.
Mais les paroles, oui, ça veut dire quelque chose. Mais c'est pas, ils ont pas un thème en se disant faut qu'on écrive sur la guerre froide, par exemple. Mmh. Je pense que ça vient au fur et à mesure et ils adaptent les paroles pour que ça colle au rythme, pour que ça colle à ci ou à ça. Mmh. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas des songwriters comme du Bob Dylan ou des
Bruce
Springsteen, tu vois. C'est, ils ont pas un message à faire passer. C'est juste
c'est plus des musiciens que des auteurs. Ok, ça marche. La chanson suivante, Friends Will Be Friends, peut-être pas y passer tant que ça.
Une chanson de stade, j'ai l'impression.
Ouais, carrément. Voilà. Ouais. De fin de concert. Même.
Voilà. c'est justement
ils le mettent par l'épaule.
Ils le mettent à la fin justement. Ouais. Et puis si tu regardes le clip, tu verras que c'est le seul concert qui n'a jamais eu lieu. Parce que le clip, c'est ils ont réuni tout le monde dans une salle.
D'accord.
Ils ont passé la chanson et à la fin, il y a tout le monde qui chante.
D'accord.
Tout le public chante Friends Will Be Friends.
Alors la chanson suivante, chanson méga connue, hein, The Show Must Go On, peut-être que une des chansons qu'on a le plus entendu à la radio à l'époque.
Je pense que c'est le côté sentimental.
Gros tube de Brian,
Puis c'est le côté sentimental de se dire, le show doit continuer. Quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Quand ils enregistraient cette chanson, donc c'est la dernière chanson publiée du vivant de Freddie Mercury, et quand ils l'enregistraient, il était vraiment très très mal en point, à tel point qu'ils pensaient que vraiment il allait même pas pouvoir la chanter.
Voilà, jusqu'au bout.
Et donc Brian May racontait que il était vraiment très très faible, et il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis il a pris... dans tout ce qui lui restait d'énergie, il a fait sa chanson et on n'entend pas qu'il est crevé, hein. Elle est intense cette chanson.
Je pense que la production aide aussi. Hein. On sent que la voix, elle est un peu travaillée, tu vois. Elle est un peu métallique en fait. Quand tu reprends un peu l'album Innuendo, tu sens que il y a des morceaux qui sont plus nets que d'autres. Et j'ai l'impression que tu sens que la voix, elle est peut-être pousser un peu plus au mastering ou un truc comme ça pour essayer de l'amener là où il devrait être.
D'accord.
Mais oui, il a tout donné pour terminer la chanson.
Alors après cette compilation, il y a un dernier album qui est sorti qui s'appelle Made in Heaven, donc, qui a été enregistré vraiment dans les tout derniers jours de Freddie Mercury en Suisse à Montreux. Et il est sorti 3-4 ans après parce qu'ils ont, pas mal de retravail dessus, je pense.
C'est ça.
C'est un album que tu juges comment, Made in Heaven?
Alors c'est un album que j'ai acheté, c'est le deuxième album de Queen que j'ai acheté, parce que je me suis dit, tiens, ils sortent un nouvel album, c'est génial, je vais l'acheter.
Oui.
Je l'aime bien, il a pas l'aura de tous les autres albums, mais il fait partie aussi des albums vers lesquels je reviens souvent, parce que tu sens que c'était les derniers moments de Freddie Mercury, t'entends sa dernière chanson qui est The Winter Fall, quelque chose comme ça, c'est sa dernière composition de son vivant où il a tout fait au piano, ils ont réarrangé ça avec des guitares, etc. Et puis ils ont repris beaucoup de chansons qu'il avait déjà faites, donc au final, tu t'entends pas que c'est un Freddie Mercury épuisé, parce que le Made in Heaven, c'est une chanson quand il était en album solo. Heaven for Everyone, ça a été fait par Roger Taylor, où c'est lui qui chante. Enfin, il y a plein de chansons qui ont été retravaillées qu'il avait déjà enregistrées. Donc au final, t'entends pas du tout la fin de Freddie Mercury, t'entends plutôt des réarrangements à la sauce Queen.
D'accord. On va conclure l'épisode avec la dernière chanson, One Vision, encore un gros son rock. One Vision qui conclut le Greatest Hits de Queen. Ça fait presque une chanson de début de carrière plutôt que de fin de carrière.
Oui. Bah c'est sûr, déjà c'est sur l'album, enfin c'est pas le dernier album, hein, c'est l'album d'accord. de Kind of Magic, je crois. Du coup, oui, ils sont
mieux années 80.
Voilà, fin 80. Mm. Moi, c'est un morceau que j'aime bien parce qu'il est rigolo. Même à la fin, ils disent One Chicken. Tu te dis, mais pourquoi ils disent ça? Ils se font plaisir, quoi. Ils s'amusent. Enfin, tu vois, on parlait des paroles. Ben voilà, elle est pas hyper développée, même si ça veut dire quelque chose. Donc au final, ça s'écoute. Moi, c'est un petit truc que j'aime bien. Surtout pour la fin, je trouve que
elle tombe bien. Finit très bien le disque. Ouais, c'est un bon rock simple, mais très efficace.
Ils auraient pu terminer sur The Show Must Go On. Parce que ça fait une belle fin aussi. Ouais. Mais au final, tu te dis, justement, le choix continue. On vous met un morceau rock à la fin de la compile pour vous dire, on est toujours là et puis on envoie, quoi.
Bien vu, ouais, carrément. Alors Ludo, t'es un vrai mélomane. Enfin, pour moi, de nos discussions, je trouve que t'as une culture pop-rock qui est intéressante. J'ai toujours plaisir, en tout cas, à parler avec toi de tout ça.
Je suis surtout pop-rock, hein, le classique.
Oui. Voilà. Mais c'est... J'ai voulu t'inviter à dépoter des albums parce que justement, je trouve que tu as une oreille que je trouve intéressante.
Merci.
Mais tu n'es pas musicien.
Ah non.
Et la question s'est jamais posée.
Si.
Si. Ah.
Bah, j'ai voulu commencer le piano, mais un peu trop tard. Ouais. J'avais 12-13 ans.
D'accord.
J'ai vite arrêté. Hein.
D'accord, ça s'était pas très bien passé.
Bah, c'est pas que ça s'est pas bien passé, c'est que je pense que c'est trop tard pour commencer. Pour commencer un instrument, avoir les gammes, enfin oui, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, les gammes, etc. Non, je voulais tout de suite jouer, quoi.
D'accord.
Comme tout ado.
Tu voulais le résultat avant le processus,
c'est ça.
Quoi.
J'étais pas du tout dans le processus, j'ai vite arrêté, je me suis dit, je préfère me reposer.
D'accord. Écouter, et avec le temps, la maturité, comme ça, t'aurais envie de t'y remettre?
Bon. Non, pas particulièrement.
Pas particulièrement, ça y est.
Je vous écoute déjà dans vos groupes respectifs, ça me suffit. Non, je suis plutôt. Là, je suis plutôt mélomane que.
D'accord.
Que à me mettre à la guitare, etc.
Eh bien, ça sera, Ludo, le mot de la fin. Je te remercie beaucoup pour cette plongée nostalgique dans notre adolescence.
Ah, merci à toi.
Ouais. Moi, j'ai réécouté cette compil vraiment avec un grand plaisir. Il y a plein d'images qui me sont revenues. C'était vraiment chouette.
Mais c'est l'avantage de Queen, c'est que t'as à la fois le son et l'image.
Exactement, ouais, carrément. Merci à vous, auditrices et auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. Et si le concept vous a plu, sachez que d'autres épisodes existent et n'attendent que vos clics, vos oreilles et vos partages. Pour toute question, remarque ou suggestion, écrivez-moi à eric.blanc@lilo.org et je vous dis à très bientôt pour un nouvel album de Des potes et des albums. Ciao !